Je vous propose une lecture. On va aborder un sujet qui nous parle de repas. Jésus avait une habitude, c'est qu'il aimait utiliser les circonstances simples de la vie pour ajouter, pour donner des enseignements. Et ça devait être un régal que de le côtoyer parce que en toutes circonstances, il arrivait toujours à trouver un truc qui allait nous raccrocher à quelque chose de profond, de spirituel. Et quand on regarde les évangiles, le nombre d'enseignements qu'on a alors que Jésus était à table ou en train de manger, eh bien, c'est impressionnant. Comme quoi, le partage de la parole, c'est un repas quelque part. Et on va ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 14. Dans toute cette histoire, on va quasiment lire le chapitre en entier. Dans cette histoire, ce que je trouve de remarquable, alors qu'il s'agit des Juifs, il s'agit des pharisiens qui invitent Jésus, et l'auteur de l'évangile, il est d'une neutralité sans pareil. Et ça, je trouve ça remarquable parce que ça nous laisse libre d'imaginer un peu dans quelles circonstances Jésus se retrouve ainsi invité chez un des chefs pharisiens, on va le voir. Je commence la lecture verset 1er. Jésus était entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, et ceux-ci l'observaient. Et voici qu'un homme hydropique, j'y reviendrai, Luc c'est un médecin, donc il nous donne des mots bien détaillés, était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors, il prit le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat ?» Et ils ne furent pas capables de répondre à cela. Je m'arrête là pour l'instant. On va continuer tout à l'heure. Ici, on a Jésus qui est invité chez l'un des chefs pharisiens. Mais Luc se garde bien de nous préciser si c'est quelqu'un qui a une intention qui est bonne ou mauvaise. Aussi bien, c'est l'un des chefs qui dira « crucifie-le » au moment du jugement. Aussi bien, ce chef, c'est Nicodème. On ne sait pas. Comme par hasard, se trouve un homme hydropique. Alors, je suis allé voir, sur Internet ce que c'est, parce que quand on a un mot aussi technique que ça, on va voir. Et il s'agit simplement, d'autres versions le disent, couvert d'œdème. Et en cherchant, je me suis aperçu que quand un homme, une femme, arrive à être recouvert d'œdème, c'est souvent le signe d'une insuffisance cardiaque. Et quand on a une insuffisance cardiaque, notre corps réagit de telle manière que ça gonfle. Parce que les veines deviennent de plus en plus petites et il y a ce qu'on appelle de la rétention d'eau. Je le sais parce que quand ma mère, j'en le parle, elle est décédée d'un cancer, en fin de vie, c'est ça exactement qui s'est passé. Autrement dit, cet homme-là, il est au bord de la mort. Et moi, j'en viens à cette question. Quand je lis ça, je dis, qu'est-ce qu'il fait là, cet homme-là? Qu'est-ce qu'il fait là? Alors j'essaie de réfléchir. Si c'est Caïphe qui l'invite, peut-être qu'il avait justement le but de piéger Jésus parce qu'il allait le guérir le jour du sabbat. Mais si c'est Nicodème qui invite Jésus, je me suis dit que, mais peut-être que cet homme-là, c'était un ami à lui et qu'il se dit, mais je vais inviter Jésus et tu vas venir. Et tu vas voir si le Seigneur, il va pas faire... Moi, il m'a fait quelque chose de bien. Il m'a enseigné, alors que je connais. Et toi, il peut te guérir. On ne connaît pas l'intention du chef qui invite Jésus n'importe comment. Moi, je trouve que c'est toujours bien d'inviter Jésus. Quand on invite Jésus, eh bien, on ne peut qu'avoir de bonnes surprises. Et Jésus est là, cet homme est là, et c'est pareil, cet homme, il est là. Cet homme hydropique. Peut-être au bord de la mort. Je ne sais pas comment il s'est déplacé. Je ne sais pas comment il a pu faire pour venir. Parce que quelqu'un qui est en insuffisance cardiaque, il fait deux pas et il est essoufflé. Il n'en peut plus. Le cœur est fatigué. Le cœur est sur le point de lâcher. Cet homme, il vient là. Il fait l'effort de venir, il fait un acte de foi rien qu'en venant. Et il va se retrouver en face de Jésus. Alors je me suis dit, si c'est Nicodème, peut-être qu'il l'a invité, peut-être qu'il a fait en sorte qu'il se retrouve en face. J'aime bien imaginer le fait qu'on ne sache pas dans quelle intention le chef a invité Jésus. Et ça, c'est important parce que finalement, on va voir que dans la suite du chapitre, eh bien, on peut facilement imaginer que Jésus, d'ailleurs j'en suis sûr, même que c'était les pharisiens, le ton ne nous est pas donné. Mais je pense que Jésus a donné toutes ces histoires avec une douceur. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Après, je n'ai pas forcément raison, j'en sais rien, mais Jésus a dû avoir des paroles de paix, des paroles pleines de douceur, des paroles qui avaient quand même pour but d'avertir, certes, on va le voir à la fin du chapitre, mais surtout d'encourager. Pendant ce repas, il y aura quand même eu une guérison. Cet homme est venu, il a été guéri. Et il y a là un message. Dieu, certes, la Bible dit qu'il s'est reposé le septième jour, mais si je suis au bord de la mort, si je suis, comme le dit Jésus, dans un puits, dans un gouffre, je ne sais pas où j'en suis, j'ai besoin de secours, je peux faire appel à Dieu. Je peux faire appel à Dieu. Je sais, la Bible me le dit, si je crois ce qui est écrit dans la parole de Dieu, elle m'apprend que si je suis malheureux et que je crie, l'Éternel entend. Et cet homme-là, Dieu l'a entendu. Cet homme-là, Dieu est intervenu et il a été guéri. Souvent, derrière les guérisons que fait Jésus, on le voit parce que dans plusieurs situations, il y a la notion de pardon des péchés. Et Jésus, certes, il veut nous guérir. Et cet après-midi, si tu as besoin d'une guérison, si tu as besoin de faire une expérience avec Dieu, Dieu, dans sa grâce et sa bonté, peut le permettre. Mais ce n'est pas cette guérison, ce n'est pas cette expérience qui fera de toi une personne qui est sauvée. On va avancer un petit peu, parce qu'ici on est à table, dans cette histoire. Ils ne sont peut-être pas encore à table d'ailleurs, parce qu'on va, dans la suite, on comprend que Jésus remarque comment ça se passe. Ils sont, on peut imaginer la scène, avant une grande réception, souvent il y a les tables, il y a le buffet qui est prêt, on n'est pas encore attablé en fait. On se sert, on reste debout, on discute. J'imagine que c'est peut-être un peu comme ça que ça s'est passé. Mais ensuite vient le moment où on se met à table. Verset 7. Il adressa ensuite une parabole aux invités parce qu'il remarquait comment ceux-ci choisissaient les premières places. Vous voyez, Jésus, le verbe est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire qu'au moment où Jésus le remarque, c'était le moment où c'était en train de se passer. Donc ils sont en train de passer à table. Donc là, il y a ce chef pharisien qui a invité Jésus. D'ailleurs, je me pose la question, où a-t-il positionné Jésus sur la table? Ça, c'est la grande question, on n'a pas la réponse. Mais en fonction de qui il a invité, on peut imaginer où Jésus a pu être sur la table. On ne sait pas. Mais ce que Jésus remarque, c'est la manière avec laquelle chacun essaye de chercher sa place. Lisons ensemble, verset 8. Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas occuper la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « c'est de lui ta place ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus nous parle de noces. Il profite de la situation. Il y a des chefs qui sont là, des chefs pharisiens qui sont là. Il y a peut-être une grande partie du Sanhédrin qui va le crucifier plus tard, qui est là. Et il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre lui. Et Jésus va parler de noces. Et dans ce thème-là de noces, Jésus aborde un sujet spirituel qui nous évoque un jour un repas de noces qui aura lieu dans le ciel. Et le parallèle que j'aimerais faire, c'est celui-ci. Dans cette simple parabole que Jésus donne, il remarque à quel point les uns et les autres essayent d'aller à la place la plus importante. Et qui ne veut pas aller au paradis ? Qui ne veut pas aller au repas de noces que Dieu va faire ? On veut tous y aller. Et malheureusement, ce que j'observe, c'est qu'il y en a beaucoup qui essayent de mériter leur place. Il y en a beaucoup qui essayent de faire en sorte de gagner leur place, de se dire « mais je mérite d'être là, je mérite d'être important, je suis important d'ailleurs parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Devant Dieu, quand j'apparaîtrai devant Dieu, forcément, il m'invitera à une bonne place. Combien de personnes croient ainsi et se fourvoient dans le fait qu'elles s'assurent, elles essayent de se persuader elles-mêmes que par leurs propres œuvres, elles arriveront à obtenir la clémence de Dieu. C'est pas ça qu'on entend ? Nous sommes tous invités, et on va le voir. Dieu nous invite. Mais il y a une chose, et c'est ce que Jésus souligne ici, que personne ne mérite d'y être. Personne. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce repas de noces, il aura lieu dans la gloire de Dieu. Il y a une image dans l'Ancien Testament où on voit Moïse avec les anciens qui mangent devant la gloire de Dieu. C'est impressionnant quand on lit le texte. Ils sont là à table, devant la gloire de Dieu. Il n'y avait pas meilleur restaurant. Je ne sais pas quels souvenirs ils en ont gardé. Mais ça s'est passé sur la terre, mais dans le ciel. Le Seigneur nous invite aussi. Il nous invite tous. Cet après-midi, j'aimerais te dire que tu es invité. Mais malgré l'invitation qui t'est donnée, sache aussi que tu ne mérites pas d'y être. Personne ne mérite d'y être. Et pour cela, il nous faut bien comprendre que finalement, si on y va, on ferait mieux de chercher la dernière place. On pourrait lire un ou deux textes ensemble dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 33. Ce sont des versets importants qui nous montrent bien avec quelle attitude il nous faut nous approcher de Dieu. Si nous sommes aux noces de l'agneau, nous sommes bien auprès de Dieu. Mais avant de pouvoir obtenir la tenue de noces, laissez-moi vous dire qu'il nous faut nous approcher de Dieu avec une pleine humilité, sachant que nous ne sommes pas notre place. Elle n'y est pas réservée encore. On ne mérite pas d'y être. Alors, que nous dit ce proverbe ? Chapitre 15, verset 33, je crois. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Cet autre verset, Proverbes, chapitre 25, versets 6 et 7. Ce sont des versets qui reflètent exactement les propos que je suis en train de donner, à savoir ceux qui essayent de se justifier. Ne te vante pas devant le roi. Et ne te tiens pas à la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux ont vu. Cette attitude pleine d'humilité, c'est celle-ci qui nous permettra de nous approcher de Dieu. Or, que nous dit la Bible, comme je l'ai cité tout à l'heure ? Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu sans réaliser que lui qui est ce Dieu saint, lui qui est ce Dieu parfait, comment peut-il nous admettre en sa présence ? J'aimerais qu'on continue un peu le texte. On arrive ici au verset 12. Jésus donne un conseil à son hôte. Et quand je lis cette parabole, j'ai envie de penser que l'hôte était peut-être bienveillant vis-à-vis de Jésus. J'en sais rien, j'imagine, parce que c'est un conseil qui est plein de sagesse. Lorsque tu donnes à dîner, à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit ta rétribution. Jésus nous donne un conseil. Il n'est pas en train de nous interdire d'inviter nos proches, d'inviter nos amis. Il faut pas mal comprendre cette parole, bien sûr. Mais il explique qu'il y a quelque chose de plus fort que ça. Et c'est le verset 13. « Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. » Il y a quelque chose ici que Jésus nous dit. Il y a un indice. Rappelons-nous que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, ici, il parle de son propre fond. Il parle au nom de Dieu. Et quand Dieu invite, c'est là qu'on fait le lien avec ce qui vient d'être dit. C'est Dieu qui invite. Dieu n'invite pas ceux qui pourraient se justifier d'être là. Dieu invite tous ceux qui ne méritent pas d'être en sa présence. Et c'est là l'amour désintéressé de Dieu. Et Dieu, comme le dit le verset 14, Dieu, il le fait avec une grande joie. Et tu seras heureux. C'est le sentiment de Dieu. C'est le sentiment de Dieu qui nous invite à ce repas dans le ciel. Dieu t'invite. Et même si tu ne mérites pas d'y être, tu es comme ces boiteux, comme ces pauvres, ces estropiés qui ne pourraient ainsi prétendre à être invités à un festin royal. Tu es invité. Tu es invité. Et Dieu, il te le dit avec un amour complètement désintéressé. Il ne regarde pas ton péché. Il ne regarde pas à ce que tu es. Oui, tu ne mérites pas d'y être. Mais Dieu, dans sa grâce et sa bonté, il t'invite quand même. Il te veut dans sa présence. Pourquoi ? Parce que son amour pour toi est complètement désintéressé. Ce qu'il veut, c'est ton bonheur. Et on va le voir un peu plus dans la parabole qui suit. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes invités, et pour cela, Dieu a payé le prix. Dieu, en plus, est heureux de cette invitation qu'il peut nous donner. On ne mérite pas d'y être, et pourtant, il le fait avec un cœur plein de joie, parce qu'il nous veut simplement auprès de lui. Quelle grâce ! Qui sommes-nous pour ainsi être le sujet d'un tel amour de la part du Dieu qui a créé la terre, le ciel, tout ce qui peut s'y trouver ? Il nous aime personnellement et il nous invite à côtoyer sa présence. Moi, quand je réfléchis, ça m'encourage vraiment de savoir que Dieu m'aime à ce point. On continue ? Verset 15. Juste un détail sur le verset 14. Tu seras rétribué à la résurrection des justes. Celui qui invite sera rétribué à la résurrection des justes. Et ça me fait penser à un petit texte, gardez la page hein, de Luc, on peut aller dans l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 4. Verset 10. Les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles et ils jetteront leur couronne devant le trône. La couronne, c'est la récompense. C'est la récompense, c'est la rétribution que nous aurons pour tout acte de foi que nous aurons fait dans notre vie sur cette terre. Tout acte de foi qui nous aura amené à accomplir l'œuvre de Dieu, à faire des actes, j'aime pas dire les bonnes œuvres, mais les œuvres bonnes. La différence, c'est que je dis que les œuvres bonnes, c'est celles que Dieu nous demande de faire, pas celles que nous, on veut faire, les bonnes œuvres qui sont finalement des œuvres qui viennent de nous-mêmes. Les œuvres bonnes sont les bonnes, celles que Dieu nous demande, des œuvres de charité, la charité étant l'expression, la matérialisation de l'amour que nous avons à l'intérieur. Quand je fais un acte de charité, ça veut dire que l'amour que j'ai dans mon cœur se matérialise. C'est bien de dire « je t'aime », c'est bien de dire que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te donne de l'argent, mais quand moi je participe et que j'aide la personne, je fais, mon amour devient de la charité. C'est ça que ça veut dire, la charité. Et ces œuvres-là, elles sont récompensées dans le ciel. C'est ce que dit Jésus quand il dit « tu seras heureux parce qu'on ne peut pas te rendre et tu auras une récompense dans le ciel ». Et ce qu'on vient de lire dans l'Apocalypse nous redit tout simplement une chose, c'est que de toute manière, si on y est au ciel, c'est la grâce de Dieu. Si on a une récompense dans le ciel, c'est aussi la grâce de Dieu. Alors, on y sera pour la grâce de Dieu, la grâce seule de Dieu, et toute la gloire lui revient. Ce pourquoi, même la récompense qu'on va recevoir, on va le lui redonner parce qu'on sera conscient, et ça c'est l'humilité parfaite, on sera conscient que si nous y sommes, c'est que c'est surtout lui qui nous a fait grâce, c'est pas nous. Et si on peut prétendre être au ciel, c'est certainement pas par nos mérites, certainement pas. Alors continuons, prenons ce verset 15. Jésus continue son explication. Il a parlé de Dieu, de celui qui invite, du sentiment qu'il y a dans son cœur, ce sentiment qui montre tout l'amour qu'il y a. Et voilà le moment du choix. Verset 15, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Peut-être qu'il y en avait un qui avait bien compris tout ce que Jésus avait dit. Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas. » Et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis venir. » Il aurait pu venir avec sa femme, hein, je pense. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de maison, irrité, dit à son serviteur, « Va, promptement sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Quand Jésus dit tout ça, il est toujours à table. Hein. Tout est en rapport avec le moment présent. Et ici, on a 2-3 détails qui nous font réfléchir. Le verset 17. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est prêt. Tout est déjà prêt. Tout est accompli. » Quand est-ce que Jésus a dit cette parole ? Sur la croix. Sur la croix. Tout est accompli. Quand Jésus est mort sur la croix, tout était prêt. Depuis que Jésus est mort sur la croix, l'invitation, elle est là. Et comme on le lit ici, dans ce verset 17, l'heure du repas est avancée. Peut-être qu'il y en a qui ont commencé à manger. Ceux qui nous ont précédés, j'en sais rien. Je peux aller voir encore. Mais on attend tous d'y être un jour. Du moins ceux qui auront accepté l'invitation. Jésus a tout accompli. Le serviteur ici, c'est le Seigneur. Dans cette parabole, le serviteur, c'est le Seigneur. Peut-être le Saint-Esprit à la fin, mais c'est le Seigneur. Et ici, le serviteur, il a tout fait ce qu'il fallait. Il est allé voir les invités qui se sont excusés. Alors, devant ce refus, il a anticipé cette demande du chef du repas et il est allé voir dans la ville. La ville, c'est quoi ? C'est Israël. Et il est allé voir, ça c'est le ministère de Jésus sur la terre. Le ministère de Jésus, il allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu s'est approché. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il guérissait. Il faisait du bien autour de lui. Et il annonçait justement ce royaume. Et il donnait à ceux qui voulaient l'entendre cette invitation. Mais tous ne l'ont pas reçu. Et l'évangile de Jean nous le dit très bien. Il est venu, mais il n'a pas été reçu. Il n'a pas été reçu. Et seuls ceux qui étaient pauvres, ceux qu'on voit là, qui viennent à Jésus, qui sont malades, qui sont pauvres, ceux qui sont conscients qu'ils avaient besoin de lui, seuls ceux-là sont finalement invités. Mais ça ne s'arrête pas parce que Jésus dit, le serviteur ici dit, mais ça a été fait, mais il reste de la place. Et combien de place il restait ? Parce que derrière, il lui dit d'aller par les chemins, le long des haies. Et là, nous sommes concernés. Là, nous sommes concernés. Le Seigneur, il est monté vers le Père pour lui dire qu'il restait de la place. Et il a envoyé le Saint-Esprit parmi nous pour qu'il puisse nous contraindre, quelque part, de rentrer dans ce royaume. J'aimerais qu'on lise ce verset, ce simple verset, qui reflète ce qui est écrit sur le mur. Ce verset-là, c'est dommage que la référence n'y soit pas écrite. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. De quelle contrainte s'agit-il ? Est-ce que le roi veut nous forcer à rentrer dans son royaume ? Ce n'est pas possible, parce que le choix nous appartient. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, qui nous parle justement du rôle que nous tenons, le rôle que je tiens en ce moment même. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et je le crois à travers cette parole, moi je crois que c'est Dieu qui vous parle. Et voilà la suite. La contrainte, elle est là. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions. On ne pourra pas vous contraindre plus que ça, de vous faire comprendre que si vous passez, si vous refusez l'invitation que Dieu vous donne, alors vous en subirez les conséquences. Et Jésus le dit très brièvement, aucun de ceux qui ont été invités, tous ceux qui ont négligé l'invitation, ne goûteront de mon repas. Autrement dit, ce seront des personnes qui n'auront pas accès au ciel. Mais il n'y a que deux endroits. Ou alors je vais au ciel, ou alors je suis condamné et je vais en enfer. Il y a deux endroits. Et de notre vivant, il nous faut décider où est-ce que nous voulons aller. Est-ce que cet après-midi, je vais recevoir l'invitation du Seigneur ? Vous savez, la manière avec laquelle il a préparé le repas. Quand le serviteur, dans cette parabole, il dit « tout est prêt », quand Jésus dit « tout est accompli », à quel prix tout a été accompli ? Combien de souffrances a-t-il souffertes ? Combien de mépris a-t-il accumulé depuis son enfance ? Combien de coups a-t-il reçu ? Il a versé tout son sang par amour pour nous, pour qu'on puisse espérer être reçu par le roi. Tout ça, c'était la préparation du repas. Tout ça, c'était la préparation de ce qui nous attend dans le ciel. On ne pouvait pas entrer sans ça. Son sang qui a coulé nous donne le pardon de Dieu. Et cet après-midi, tu ne pourras pas rentrer si tu n'obtiens pas le pardon qui vient de Dieu. Et pour obtenir ce pardon qui vient de Dieu, il te faut t'approcher de lui comme on l'a vu, pas en cherchant la première place, en mettant tout ce que tu as pu faire de bien dans ta vie, mais en allant à la dernière. Aller à la dernière place, ça signifie, Seigneur, j'ai bien compris que je n'étais pas invité, alors je me mets sur le strapontin. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je suis conscient de mes faiblesses. Je suis conscient de mon péché. Oui, ta parole dit que je suis pécheur. Alors Seigneur, viens me le montrer. Révèle-le-moi. Et Seigneur, moi je veux être auprès de toi. Aussi je te demande pardon pour mes péchés. C'est une attitude que nous pouvons tous avoir, celle de nous approcher du Seigneur en cherchant cette dernière place. C'est celle qui nous amène à nous approcher de Dieu avec ce qu'on appelle la repentance. C'est ça la repentance. C'est accepter l'invitation en nous approchant de Dieu, mais en reconnaissant le fait que nous ne méritons absolument rien. Et pourtant, le Seigneur, dans son amour et sa grâce, il nous invite, et son cœur est dans la joie quand il nous tend l'invitation. Qui va recevoir cette invitation ? On se recueille quelques instants. Le Seigneur profite des moments de la vie de tous les jours. Et je crois qu'il y a aussi un enseignement pour nous qui sommes chrétiens, parce qu'on remarque que la vie de tous les jours peut nous aider à partager certaines choses avec ceux qui nous entourent. Ça, c'est une parenthèse. Mais ici, le Seigneur t'invite. Le Seigneur t'invite. Est-ce que tu vas recevoir l'invitation que Dieu te donne ? Est-ce que dans ton cœur, tu vas décider de t'approcher de celui qui te donne cette invitation ? Et je ne pourrais pas vous encourager à autre chose que de terminer la lecture de ce chapitre. Parce que le passage qui suit nous apprend comment suivre Jésus, comment nous approcher de lui avec un cœur sincère, honnête. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Et je vous encourage, à l'issue de cette réunion ce soir, vous reprenez ce chapitre 14 et vous le lisez avec un cœur attentif. Qui veut recevoir cette invitation ? Qui veut aller auprès du Seigneur ? Le choix, il est à faire maintenant, de ton vivant. C'est maintenant qu'il te faut te décider à suivre le Seigneur. On reste en silence quelques moments et je vais prier. Seigneur notre Dieu, oui, il y a ce repas qui nous attend dans le ciel, ce repas de noces qui nous attend. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas nous approcher de toi sans avoir la robe de noces, sans avoir cette robe que toi tu nous donnes quand nous sommes réconciliés avec toi. Cette robe qui nous permet d'entrer auprès de toi. Et tu nous la donnes, cette robe. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que finalement, nous considérons que nous ne méritons rien. Seigneur, je te prie pour ceux, pour celles qui n'ont pas fait ce choix encore. Et je te prie pour que par ton esprit, tu puisses travailler les cœurs. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses parler au cœur et qu'il y ait cette décision, cette simple décision, que par ton esprit, ces personnes puissent réaliser à quel point tu les aimes et à quel point tu veux leur faire du bien. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette formidable invitation que tu nous laisses. Merci pour cette bonne nouvelle, Seigneur. Tu nous veux auprès de toi, alors que nous ne méritons pas. Seigneur, nous te rendons grâce et je te rends grâce. Je te prie vraiment, Seigneur, pour que tu puisses par ton esprit travailler les cœurs et qu'il y ait des vies changées, qu'il y ait des vies qui se décident pour toi et que parmi tous ceux que nous formons cet après-midi, il y ait des victoires de remportées par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et tes bienfaits. Nous te rendons grâce Seigneur Jésus de tout notre cœur. Merci Seigneur pour ton amour qui est désintéressé à notre sujet. Oui Seigneur, qui sommes-nous pour bénéficier ainsi de ton amour et de ta grâce ? Seigneur Jésus, merci. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.